France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Tout récemment, en rendant hommage à Sœur Emmanuelle après sa mort, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, a raconté avec émotion qu'il avait un jour, tenez-vous bien, dansé le tango avec elle. Je n'avais pas prévu, pour être franc, cette remarquable actualité quand j'ai choisi ce sujet, mais il me semble que ce propos dit assez que celui-ci trouve sa place entre diverses émissions plus graves. Le tango, en effet, revient furieusement à la mode en Europe. Le beau film de Carlos Saura, qui s'appelait tout simplement Tango, remonte à 1998, mais c'est bien plus récemment que plusieurs documentaires ont restitué son histoire avec un grand succès. En septembre dernier, le Théâtre du Châtelet à Paris a ouvert sa saison avec Tanguera, spectacle de tango monté comme une comédie musicale et qui a tenu auparavant 18 mois l'affiche à Buenos Aires. Carmen Bernand, professeure émérite à l'université de Paris-10-Nanterre, mon invitée ce matin, a vécu 25 ans en Argentine et elle connaît ce pays admirablement. Avec elle, nous allons réfléchir à ce que le tango peut nous dire, à la fois sur un siècle et demi d'histoire de l'Argentine et sur les motifs pour lesquels il a franchi l'Atlantique jusqu'en France, avec un succès si éclatant, à partir des années 1900, s'est épanoui en Europe entre les deux guerres et a retrouvé ce brillant succès contemporain. Toute mode, en effet, peut éclairer sur la profondeur de multiples et mouvantes sensibilités collectives.
Monsieur Juancito Diaz, voulez-vous tenter de définir le tango du point de vue de l'Argentin?
L'importancia es grandiosa porque representa nuestra vida, toda una vida de música del corazón y del pueblo argentino.
Est-ce que les réactions des audiences étrangères devant le tango sont semblables à celles du public de votre pays d'origine?
La réaction del público extranjero es tan grande que adoptan de inmediato nuestro tango bailándolo, como escuchándolo, como ejecutando.
Sans vouloir faire l'histoire de la musique de tango, pouvez-vous nous dire, monsieur Juancito Diaz, si ce tango a subi des influences étrangères?
Ah non, ninguna. Es exclusivo argentino.
Quelles sont, selon vous, les qualités qui font d'un musicien de tango un grand soliste comme vous l'êtes vous-même?
La calidad debe ser, primero, gran conocedor profundo del teclado, excelente músico, y debe ser un gran intérprete de los sentimientos del tango.
Carmen Bernand, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un interprète de tango argentin, Juan Diaz, le 1er janvier 1950, il y a donc déjà 58 ans. La curiosité de nos auditeurs, ceux en tout cas qui ne sont pas hispanophones, a peut-être été piquée, puisque c'est une archive qui n'est pas traduite. Voulez-vous nous dire quel est le message de Monsieur Juan Diaz?
Oui, il dit deux choses qui sont très amusantes. Bon, d'abord, il se réfère au pueblo argentino. Il ne faut pas oublier qu'en 1950, on est sous Perón. Et donc, il en fait un emblème de ce gouvernement populiste, le tango.
En disant que c'est exclusivement argentin.
Ensuite, il dit qu'il est exclusivement argentin. Il oublie d'abord l'Uruguay, que Perón était en très mauvais termes avec le gouvernement uruguayen. Peut-être que c'est à cause de cela. Mais il affirme que c'est une musique qui n'a reçu aucune influence. Or, on sait aujourd'hui que le tango vient d'une grande matrice musicale de toute l'Amérique latine et qui s'est transformée petit à petit. Évidemment, aucune musique ne peut naître comme ça de la cuisse de Jupiter, si l'on peut dire, et exister. Mais enfin, bon, il se fait là, un tout petit peu l'interprète de toute une époque extrêmement nationaliste qui fait de cette musique vraiment la musique symbolique de toute l'Argentine.
Vous dites que le tango est né d'influences américaines, d'Amérique latine,
oui.
Mais on peut peut-être regarder plus loin, plus large. En
oui.
fait, l'Europe aussi a joué son
rôle.
Bien
sûr, parce que toutes les musiques latino-américaines, elles sont tout de même un produit de trois musiques indigènes, noires surtout, et européennes. Et donc, on trouve, les musicologues ont dégagé du tango, des structures rythmiques qu'on trouve un tout petit peu partout. Les fameuses habaneras, qu'on connaît grâce à Bizet, ont joué un rôle très important. Et donc, le tango fait partie de cette vaste et très intéressante musique d'Amérique latine influencée par les Noirs, avec une touche un tout petit peu différente justement et qui va la séparer, la distinguer des autres, c'est que les instruments vont changer. Les percussions des Noirs vont disparaître progressivement parce qu'il n'y aura plus de Noirs dans la rive argentine du Rio de la Plata. Et on va remplacer ces percussions surtout par un instrument nouveau qui est le bandoneon. Et donc le bandoneon qui a une toute autre couleur que les percussions.
D'où vient-il ?
Qui vient de l'Allemagne et qui arrive dans les années 60 du 19e siècle. Par les bateaux. Et on retrouve le bandoneon aussi au Paraguay, justement.
Un vrai syncrétisme, par
conséquent. Ah oui, il y a un vrai syncrétisme.
Pas seulement l'Espagne de Bizet, de Carmen, plus ou moins rêvée, mais aussi même les pays germaniques.
Oui, même les pays germaniques. Alors, le bandoneon va donner une touche tout à fait particulière qui va transformer le tango en une musique assez triste. Il y aura toute cette inflexion mélancolique et nostalgique qui se distingue des musiques très gaies qui ont une influence africaine, qui se trouvent un tout petit peu partout dans les Caraïbes ou dans le nord de l'Amérique du Sud.
Pour interpréter en termes sociaux cette histoire dans ses débuts, il faut considérer qu'il y avait une communauté noire assez importante à Buenos Aires, en particulier la capitale de l'Argentine, qui aujourd'hui est tout à fait refoulée.
C'est refoulé aujourd'hui, on commence parce que c'est un tout petit peu à la mode de chercher des racines ethniques, mais c'est vrai qu'à Buenos Aires, il y avait beaucoup de Noirs dans le tournant du 18e, 19e siècle, parce que c'était un port d'entrée des bateaux négriers.
Alors qu'aujourd'hui, l'Argentine est un des pays d'Amérique, le pays d'Amérique latine probablement où il y a le moins de populations d'origine indienne ou africaine.
Aujourd'hui, on en voit plus, si ce n'est des immigrés maintenant d'Afrique. Mais quand moi, j'habitais à Buenos Aires, on disait que si on voyait un noir, ça portait bonheur. Tellement c'était rare.
C'était à quelle époque ?
Oh, c'était dans les années 50 et même 60. On n'en voyait pas. Et donc, ces Noirs, ils se réunissaient dans des endroits qu'on appelle les tangos et jouaient des tambours, des percussions, un tout petit peu comme dans d'autres pays. Et ils ont marqué profondément le tango, puisque l'ancêtre du tango s'appelle la milonga, et que la milonga est un terme tout à fait noir. Cette couleur noire du tango s'est petit à petit effacée, blanchie, d'abord parce qu'il n'y a plus de noirs, la plupart sont morts lors des guerres d'indépendance, et les femmes se sont métissées, donc on ne les voit plus, elles ne sont plus visibles. Et ça donnait quelque chose d'un tout petit peu différent, mais en conservant des structures rythmiques anciennes.
Nous n'allons pas vous faire attendre davantage pour écouter un des plus beaux tangos qui soit, celui qu'interprète Carlos Gardel en 1917 et qui s'appelle « Noche Triste ».
Por eso me culpé para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuarzo mi apuesto, no puedo cerrar la puerta para que dejando la abierta mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito como si estuviera vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay con el pulir aquellos lindos frasquitos adornados con bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, donde en tu ausencia sentido, porque su luz no ha querido, mi noche triste alumbra. Por tanto que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor.
Noce triste, Gardel, 1917. Alors, Carmen Bernard, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Oui, c'est un peu un tango culte parce que Gardel, qui jouait des chansons du type créole, ne voulait pas chanter au départ. C'est une chanson truffée de mots d'argot et c'est l'histoire d'un marlou qui est abandonné par une de ses femmes. Et il pleure cet abandon et,
Même les macros pleurent.
Ah oui, oui, tout à fait. Et alors, il pleure et ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'il décrit le lieu, sa chambre où, qu'il partageait avec cette femme. Et là, il a toute une description très kitsch qui contraste avec la situation et qui est très amusante. Alors, il décrit les petits flacons avec des petits rubans qui sont sur une table, etc., etc. Et c'est une chanson qui a été créée par un parolier très célèbre qui s'appelait Contursi et qui a mis en scène, si l'on peut dire, tout ce monde de macros qui pleurent, qui sont des sentimentaux et qui mangent des petites galettes qui sont restées parce qu'elle est partie avec tout, ils n'ont plus rien à manger, tout est désordonné, tout est triste, ils laissent la porte ouverte pour qu'elle revienne. Et donc ça va être tout un filon qui va reprendre les thèmes anciens, les thèmes des lupanars et des bordels, mais en donnant une sorte de dimension, je dirais presque métaphysique à ces marlous, parce qu'ils sont là, déchirés. C'est la femme toujours qui est méchante. Hein.
Le succès actuel du tango, c'est très urgent, dont nous parlions tout à l'heure. Est-ce qu'elle est marquée aussi par coloration kitsch, comme vous dites ?
Oui et non, oui, kitsch dans ce sens qu'il faut quand même pour danser le tango, il y a énormément d'académies de danse dans toute la France. Et je suis allée récemment à Grenoble où les gens se réunissaient 3 fois par semaine, des Français, non pas simplement des Argentins, pour danser le tango dans des salles d'association, parfois des salles de gym ou autre chose.
Le tango dans les Alpes.
Oui, oui, mais je vous assure que les gens dansent très très bien. Alors c'est un peu kitsch parce qu'on ne peut pas danser le tango en blue jean, ce serait épouvantable. Donc il faut une jupe un tout petit peu particulière, il faut des chaussures, il y a tout un côté rituel qui est très très important. Et je dois dire qu'on trouve ces académies un tout petit peu partout et par internet, vous êtes toujours sollicité, si vous voulez suivre un cours de tango, il n'y a pas de problème.
Il y a d'ailleurs toutes sortes de DVD qui resurgissent.
Oui.
On voit même reprendre la trame de Buena Vista Social Club, cette fameuse création de Cuba, où on a vu des vieillards délaissés retrouver un lustre étonnant.
Exactement, mais je crois que le tango, c'est un peu différent, parce que j'ai un peu l'impression qu'il n'a jamais cessé d'être aimé des Français. Il n'a jamais cessé d'avoir du succès. Peut-être qu'il y a des moments qui sont plus importants que d'autres, plus intenses, mais le tango plaît beaucoup, sans doute à cause de sa chorégraphie, qui est assez particulière, qui est grave, qui est un peu austère. Je ne sais pas très bien pour quelle raison, puisque les paroles sont, pour ainsi dire, incompréhensibles pour un public qui ne connaît pas l'espagnol et l'espagnol du Rio de la Plata. Mais c'est ce rythme, cette espèce de rythme langoureux, mélancolique, je crois, qui plaît. Et puis la danse est très belle à regarder.
Cette résurgence du goût pour le tango, d'ailleurs, fait fleurir sur la toile toutes sortes d'informations sur l'esprit et les principes de base du tango. J'en ai relevé un exemple parmi d'autres. Le tango reste la danse de salon la plus fougueuse et la plus enflammée, même si ses mouvements sont devenus élégants et raffinés. Ils doivent être parfaitement marqués pour traduire les pulsions qui les engendrent. C'est une danse tendue où s'affrontent les volontés, celle du guideur viril et presque dominateur, et celle du guidé qui tour à tour s'abandonne et se refuse. Chaque tango raconte l'histoire d'une passion, souvent impossible ou tragique. La violence du climat de cette danse doit transparaître dans les postures qui conditionneront le pas et les figures. Les corps sont bien droits, rapprochés, mais ne sont en contact que par les joues droites qui reposent l'une contre l'autre, les jambes se pénètrent et les pas se font pied entre pied. C'est fidèle, Carmen
C'est assez fidèle, oui, et peut-être on peut avancer, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une suggestion, que le tango plaît parce qu'il accorde une place encore très importante aux hommes. Et donc, et peut satisfaire les femmes parce que on n'est pas du tout dans quelque chose de détriqué ou de comment c'est osé. Mais l'homme a une place très importante puisque c'est dans cette danse que l'homme avance toujours, c'est jamais la femme. Et donc, je crois que dans une période où le masculin et le féminin tendent à tout petit peu à se neutraliser, ce retour du masculin dans certaines limites, peut-être plaire.
Lent, vite, lent.
Ah oui, non, mais on peut pas improviser. La femme ne peut pas prendre les devants d'aucune façon. Il faut qu'elle suive.
Revenons en tout cas à l'Argentine du 19e siècle, au moment où le tango surgit. Et je voudrais vous faire entendre l'interprétation qu'en donne Alfredo Arias, le grand metteur en scène argentin, dans La matinée des eaux sur France Culture, le 17 juin 1997. Vous nous direz ensuite si vous approuvez ce regard et cette interprétation.
Comme Buenos Aires, c'était un grand port, il est toujours un grand port, il y avait beaucoup de bateaux de toute la région du monde qui venaient chercher les produits de chez nous, des différents produits agricoles, la viande, etc. Et un port, c'est un lieu d'échange de toutes sortes, un grand mélange culturel, comme chacun sait. Et on dit que les marins allemands amenaient avec eux à l'époque, cet instrument qui servait d'accompagnement pour les longs voyages. Plus une réalité de ces lieux du monde, Buenos Aires, l'Argentine, au Montevideo, l'Uruguay, les deux grands ports qui, séparés par le Rio de la Plata, et c'était un carrefour des immigrants. Donc c'est là où ça mijotait un peu les premiers pas d'une nouvelle culture, d'un pays qui était en train de naître quelque part. Alors, si on ajoute à cet énorme carrefour les Italiens, les Espagnols, les Français, une colonie de petites colonies, mais quand même existantes, des Noirs africains qui sont venus en qualité d'esclaves dans le 19e, et plus les Juifs de l'Europe centrale, tous ces gens-là, ce que nous appelions à l'époque les Turcs, mais en fait, c'était des Libanais, des Syriens qui venaient avec les passeports de l'Empire ottoman. Bon, tous ces mélanges ont donné naissance à cette musique que, bon, le stéréotype dit qui est née dans des quartiers comme vous avez dit, malfamé, oui et non, tout est relatif, vous savez, sans démystifier rien du tout, mais non plus sans servir de quelques stéréotypes, il y avait tout dedans. Est-ce qu'un quartier de pauvres et de travailleurs, c'est un quartier malfamé? Oui, pour certains. Et là, c'est quand même une position idéologique, vous comprenez? C'est-à-dire que l'aristocratie, chez nous, à l'époque, comme on l'appelait, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, regardait le peuple qui était en train de faire naître une musique avec un sens péjoratif en disant « oui, les quartiers malfamés ». Ils s'en servaient de ces quartiers malfamés parce que c'était eux qui visitaient peut-être un bordel, par exemple. Et en plus, après, le tango a donné un certain certificat de noblesse, petit à petit, à partir de que la bourgeoisie de notre pays l'a accepté comme une musique riche.
Alfred Dorias était interrogé par Francesca Isidori sur France Culture. Cette interprétation qui se veut capable de démythifier Buenos Aires, l'Argentine de ce temps-là, vous paraît juste? Vous qui avez, Carmen Bernand, écrit un livre, un très beau livre sur l'histoire de Buenos Aires, un livre d'amour et de tendresse.
Il y a beaucoup de foyers du tango, il a raison et il n'a pas raison. Bien sûr, il y a des quartiers pauvres, mais d'abord, le tango, il est né dans les marges, dans les abattoirs, par exemple, où venaient des gens, des migrants des régions rurales. Et évidemment, les abattoirs étaient à la fois des lieux populaires, certes, mais des lieux quand même un peu particuliers où il y avait beaucoup de luttes, de combats. Borges en a parlé beaucoup. Il s'est développé également dans des quartiers portuaires comme La Boca où il y avait beaucoup d'immigrants. Et là, il a raison, c'était des quartiers de gens de travailleurs. Et également dans ces maisons de rapport qu'on appelait des conventillos où habitaient jusqu'à 100 personnes. Autour d'un patio central et qui ont été vraiment le melting pot de l'Argentine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout de même aussi un lien avec la prostitution. Il a parlé des immigrants juifs et donc peut-être rappeler qu'une organisation très connue, Zvi Migdal, qui était israélite, allait chercher des jeunes filles dans les campagnes polonaises pour les ramener avec des promesses de mariage en Argentine et en fait pour les livrer à la prostitution. Donc tout ça est mêlé, on ne peut pas faire la part, ici c'est prostitution, ici c'est peuple, je pense que c'est tout un ensemble qui est important. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que cette musique, qui a quand même des racines argentines, disons créoles, qui vient de loin, des Noirs et d'autres influences.
Avec un puissant syncrétisme qui est argentin.
Oui, et elle va beaucoup plaire aux immigrants et donc elle va être adoptée par des gens qui, au fond, venaient d'autres traditions musicales, notamment les Italiens. Et les Italiens sont très importants dans cette affaire, parce que cet argot, on a entendu tout à l'heure un tango en argot de Carlos Gardel, Ma triste nuit, eh bien cet argot, il est à grande base de termes italiens et napolitains et calabrais. Et donc, ils vont avoir un rôle très important dans les paroles. La plupart des paroliers les plus célèbres sont d'origine italienne.
Vous rejoignez Borges pour remettre en cause cette histoire du tango, disait-il, que le cinéma divulgue périodiquement, version sentimentale, qui voudrait que, précisément, que le tango soit né dans ces conventillos que vous évoquiez il y a un instant et qu'il aurait d'abord été rejeté par la bonne société. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Borges explique, lui, il soutient qu'il est né des marges. Et donc, toute sa littérature et la littérature des marges avec tous ces hommes de main, ces guapes qui sont là et qui dansent le tango parce que le tango avant était une danse exclusivement masculine. Et donc, pour lui, tout ce qui est venu après avec l'immigration a édulcoré ce tango, a rendu cette danse entre hommes des gens qui étaient quand même des durs, disons.
Non, c'est entre hommes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes.
Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Alors après, avec l'immigration, avec peut-être le succès du tango, c'est devenu une toute autre chose. Mais pour Borges, moi je suis d'accord avec lui, c'est tout de même lié à des zones, disons, marginales.
Ce regard que le tango donne l'occasion d'avoir sur le... sur l'Argentine du temps, peut nous aider à comprendre celle d'aujourd'hui, celle de l'après-dictature, celle qui a vécu ces moments si difficiles avec l'effondrement économique, celle qui se relève.
Aujourd'hui, pour la nouvelle génération, les jeunes, le tango, c'est peut-être la musique des grands-parents ou la musique, j'allais dire, presque bourgeoise, presque du passé.
Elle ne retrouve pas son énergie alors que c'est le cas en Europe.
Oui et non. Il y a une grande prolifération d'artistes, il y a énormément de spectacles de tango, mais les gens qui habitent les lieux marginaux d'aujourd'hui sont des gens qui chantent, par exemple, des sortes de mélodies qu'on appelle des cumbias, qui viennent de la Colombie en passant par la Bolivie et le Pérou, et donc en se sandinisant un tout petit peu. Et ce qui est assez quand même drôle, c'est que dans ces cumbias, on reprend ce langage quand même argotique, et on chante des marlous, on chante la drogue et tout, mais le rythme est totalement différent. Donc aujourd'hui, à Buenos Aires, le tango, c'est plus une classe moyenne et peut-être même des élites, tandis que ces zones marginales, ces bidonvilles qui sont très importants aujourd'hui, ont une autre musique.
J'observe néanmoins que, Carmen Bernand, j'observe que sur la couverture de votre histoire de Buenos Aires, vous avez choisi de reproduire un tableau de Norberto Russo sur lequel vous avez en quelque sorte incrusté un couple en train de danser le tango. C'est dire à quel point cela est essentiel.
Oui, et c'est devenu maintenant un phénomène artistique d'une énorme ampleur. Et donc, vous avez des expositions de tango, des exhibitions de toutes sortes, mais le tango a perdu le côté, à mon avis, marginal, qui s'est reporté sur d'autres musiques.
Certains pensent que c'est parce qu'il a fait un détour par l'Europe qui lui a donné une respectabilité hors de pair.
Moi je suis du temps du tango, où même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique. Costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado, j'en ai passé des beaux dimanches. Ange des belles venait en avalanche et vous offrait comme un cadeau. Rondeur du sein et de la hanche, je pour qu'on leur fasse danser le tango. Ces mômes-là, faut pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Et dame, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Quand par hasard et sans manière, le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. Est-ce que les femmes ont pu me plaire? Est-ce que j'ai plu? J'étais si beau. Faudrait pouvoir faire marche arrière. Comme on le fait pour danser le tango. Des tangos, il y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta. C'est si joli quand on le chante. Surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins du bal tout un manège d'étoiles filantes. Alors c'était plus Valentine, c'était plus Loulou ni Margot, dont je serrais la taille fine. C'était la reine de l'Argentine et moi j'étais son Hidalgo. Œil de velours et main calée, ce que j'aimais danser le tango. Mais doucement passent les jours, adieu la jeunesse et l'amour, les petites mômes et les je t'aime. On laisse la place et c'est normal, chacun son tour d'aller au bal, faut pas que ça soit toujours au même. Le cœur, ça se dit corazón, en espagnol, dans les tangos. Et dans mon cœur, ce mot résonne. Oh, et sur le boulevard, en l'automne, en passant près du Mikado, je ne m'arrête plus, mais je fredonne. Oh. C'était battre le ton du tango.
C'était Battre le temps du tango, le temps du tango de Jean-Roger Cossimon en 1958. À cette date, le tango est bien installé en Europe. Mais il faut considérer le moment où il est venu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire avant 1914.
Oui, on dit qu'on avait pris des partitions d'un tango qui s'appelait la Moroche, et qu'on avait embarqué ces partitions sur un bateau, et qu'à l'arrivée en France, ces partitions se sont vendues, les gens étaient enchantés, et que ce serait l'origine du tango en France. Je ne sais pas si cette anecdote est vraie ou pas, le fait est que très vite, à partir de 1900, le tango s'est vraiment répandu partout. En Espagne, c'était un peu plus normal. En France, il est même arrivé à la cour du tsar. Et donc, il a fait fureur partout. Évidemment, on le dansait d'une façon un tout petit peu plus élégante, sans des gestes qui étaient considérés comme des gestes très osés, voire obscènes. Mais le tango a été vraiment une sorte de coqueluche dans toute l'Europe et aussi aux États-Unis, bien sûr.
Il faut dire que c'est le temps où l'Argentine est assez à la mode. On a l'impression que c'est un pays d'avenir. On ne dit pas encore que c'est un pays d'avenir et est destiné à le rester. Vous connaissez ce poème de Henri Levet, qui date précisément de cette époque. Ni les attraits des plus aimables Argentines, ni les courses à cheval à travers la Pampa ne parviennent à distraire de son spleen le consul général de France à La Plata.
Oui, parce que le...
Toute une ambiance.
Il y a toute une ambiance. L'Argentine est un pays très riche et que Buenos Aires, au début de 1900, subit une transformation et devient le petit Paris, le Paris austral. Et par conséquent, tout ce qui vient de Paris est accepté immédiatement par les gens de Buenos Aires. Et inversement, en France, on trouve cette espèce de miroir sud-américain dans Buenos Aires qui a une architecture de cette époque qui rappelle, par exemple, les hôtels particuliers qu'il y avait jadis, avenue Foch, qui n'existe plus. Peut-être pour voir cette architecture, il faut retourner à Buenos Aires.
C'est le temps où toutes les élites parlent français. C'est le temps où Jean Jaurès d'un côté, Georges Clemenceau de l'autre, juste avant la guerre de 14, viennent y faire des conférences. Les théâtres sont pleins. D'ailleurs, Clemenceau, vous connaissez probablement ce mot, qui voit beaucoup danser le tango à l'époque, dit « Dans le tango, je ne vois que des têtes qui s'ennuient, des derrières qui s'amusent ».
Oui, Clemenceau qui a écrit, qui a un livre sur l'Argentine. Oui, peut-être
voyage,
on va le laisser avec cette opinion, chacun la sienne. Mais c'est vrai que c'est un lieu où convergent des gens tout à fait extraordinaires. Et plus tard, il y aura même Tagore qui va arriver en Argentine et qui va séjourner plusieurs mois. C'est tout de même une ville tout à fait paradoxale parce que c'est fond de l'Amérique du Sud, mais profondément européenne, en tout cas à cette époque.
Cette transition du lupanar de Buenos Aires jusqu'au salon, c'est une histoire qui peut révéler un certain type de relation entre l'Europe, la vieille Europe et l'Amérique neuve.
D'abord parce que peut-être, il s'est passé plus récemment, il fallait que le tango soit légitimé par la France, par exemple. Et donc, ce passage en France a donné au tango vraiment des lettres de noblesse. Autrement, peut-être qu'il serait resté une musique un tout petit peu ethnique et locale, sans plus.
C'est un schéma qui s'est renouvelé, dites-vous, plus récemment.
Oui, parce que il faut que les musiques, pour sortir de leur côté régional ou de leur côté national, puissent se diffuser. Et le tango a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'avant le développement des médias, bon, il y avait des moyens, mais qui étaient quand même très limités de diffusion, devient une musique internationale. C'est le début de la globalisation du tango. On le retrouve même à Istanbul et en Grèce. Donc c'est quand même très, très, très étonnant. Alors comment il circulait ? Il circulait avec les partitions. Les gens jouaient ces partitions. On entend le disque va commencer vraiment dans les années 20, mais pas avant. Et donc, avant le jazz, le tango se répand un tout petit peu partout. Et il y a le cinéma hollywoodien, qui va favoriser également cette espèce de goût pour le tango.
En portant l'image de Gardel, mais avant d'y venir, je voudrais vous signaler que, comme souvent, l'Église catholique se préoccupe de savoir si c'est une musique, une danse qui est acceptable ou non. Et il y a un épisode curieux, c'est qu'en 1913, l'archevêque de Paris dirige ses foudres contre le tango et interdit en quelque sorte à ses fidèles, sur quoi le pape Pie X, à l'étonnement de beaucoup, se montre séduit par une démonstration que lui a fait un couple d'aristocrates. Il annule la demande de condamnation formulée par le consistoire. Naturellement, ça fait les choux gras des chansonniers de l'époque. En voici un, le fameux Monteus, le pape et le tango.
Cette musique, messieurs, trouble les cœurs et les cerveaux. Sur les orgues, désormais, on jouera le tango. Il serait ridicule d'interdire cette danse, mais intelligemment faisons-lui concurrence. Et je veux qu'ici même, ici au Vatican, on danse le tango, je me fous des cancans. On dansera ce soir même à la lueur du cierge, tout le monde le veut, le pedon, la concierge. L'église ne veut plus être un endroit de torture, portez-moi le goupillon que je batte la mesure. On ouvrira ce soir les portes des couvents, Vierge Marie, pardonne au nom de ton amant. Saint-Pierre ne montre pas le tambour masticote, et sous ma soutane blanche, je sens l'âme d'une cocotte. Saint-Antoine, viens vers nous, toi qui suis si folichon. Viens danser le tango, viens avec ton cochon, pour rappeler les hommes qui sont bien de ta race, que sa queue en trompette nous perde de corps de chasse.
Église catholique et musique profane, ce serait un sujet immense, Carmen Bernard.
L'Église catholique, évidemment, ne pouvait qu'être choquée devant tous ces gestes qui étaient tout de même les premiers, surtout, qui étaient considérés comme des gestes pornographiques. Et elle a accepté le tango quand le tango est devenu élégant et hiératique. Et donc,
on passe de l'archevêque au pape.
Oui, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, on a entendu une musique au départ qui était celle de l'épi de maïs, le choclo, que même les titres des tangos étaient à double sens et qui étaient considérés comme extrêmement obscènes. Donc, évidemment, le pape faisait, enfin, en tout cas, l'archevêque faisait son métier d'archevêque et s'inquiéter des mœurs.
Oui, l'épi de maïs, c'est ce que nous avons entendu juste après le générique.
Qui est un des tangos les plus célèbres, un des premiers, et qui connaît toujours un succès fantastique parce que le rythme est très, très bon. Et je crois que presque tous les orchestres de tango l'ont joué, mais même Piazzolla l'a joué aussi.
Ce mélange d'énergie et de chagrin, de dynamisme et de tristesse, de nostalgie qui me paraît colorer le tango, trouve assez bien sa place dans la sensibilité européenne de l'entre-deux-guerres.
Sans doute, parce que il y a quelque chose qui correspond un tout petit peu au drame que vit l'Europe. Ça pourrait expliquer une partie de cet engouement. Je crois qu'une autre raison, c'est que par Gardel, par Valentino, qui était quand même un artiste très célèbre,
l'idole de cinéma,
par ce cinéma qui est un cinéma très populaire, je crois que les gens vont sentir une identification avec cette solitude urbaine de Buenos Aires. On oublie que finalement le cinéma était vu par tout le monde, que c'était des grands stars depuis les débuts. Et qu'il a complètement modifié, à mon avis, la façon de percevoir qui était peut-être celle de l'Europe du 19e siècle ou des États-Unis ou de l'Argentine. Et donc a donné une autre dimension grâce à ces identifications.
C'est là qu'il faut que nous en arrivions à la figure majeure dans cette histoire du tango qui est celle de Carlos Gardel, chanteur et acteur de cinéma qui a atteint une gloire universelle.
Oui, c'est un personnage très étrange parce qu'il est d'origine française. Il a un tout petit peu nié, sans doute parce qu'il n'a pas voulu partir en 14 à la guerre. Il était fils d'une immigrée qui était très, très modeste. On dit même qu'il serait né en Uruguay. Il est de Toulouse. Et donc, au départ, c'est un garçon qui a joué dans des choses typiques. musique avec de la guitare, ce qu'on appelait la musique créole, musica criolla, j'avais habillé en gaucho, enfin bon, tous les poncifs de l'époque de ce qui devait être argentin. Et il va commencer à chanter grâce à son parolier Contursi, le tango, et va connaître un succès fulgurant parce qu'il aura l'intelligence en plus de trouver des paroliers excellents, et notamment un qui s'appelle Lepera, qui va périr avec lui dans un accident d'avion, qui va faire du tango une sorte d'histoire avec un début et une fin.
24 juin 1935, à Medellín, en Colombie, en effet, son avion s'écrase.
Alors, son avion s'écrase, on commence à dire que peut-être il y a eu un attentat ou qu'ils étaient sous. Enfin, le doute s'installe. Le corps de Gardel va partir par le canal de Panama et va arriver à Buenos Aires plusieurs semaines après, et va être veillé mais par tout le peuple, toute la ville. Et à partir de là, comme disaient toujours les speakers de la radio, quand ils mettaient un tango, ils disaient de jour en jour, ils chantent mieux. Et il va devenir un personnage charismatique, puisque au cimetière de Chacarita, où il est enterré, on a énormément d'ex-voto. Les gens viennent de toute l'Amérique latine et même d'Europe et mettent des plaques à Carlitos parce que grâce à lui, mon fils a récupéré l'envie de vivre, etc. etc. Bon, vraiment des ex-voto comme à l'ancienne.
C'est une spécialité argentine. Eva Perón aussi a connu ce type d'incroyable engouement et presque de sanctification après sa mort.
Et alors, le physique de Carlos Gardel va être repris par d'autres. Même Perón, dans sa jeunesse, il ressemble un tout petit peu à Gardel. Il va y avoir une sorte de filiation symbolique entre tous ces hommes, avec cette idée que, comme Perón, comme Evita, il est parti de rien, du peuple, d'une couche très basse de la population. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute cette mythologie urbaine et qui est liée à la chanson ou à la politique, bien sûr.
Avec ce thème aussi du déracinement, qui est finalement assez adapté à ce XXe siècle qui a été celui de tous les exils. Dans un des tangos les plus célèbres qu'il a chanté en 1932, qui s'appelait Volver, on lit « Car le voyageur qui s'enfuit, tôt ou tard, s'arrête en chemin. Et si l'oubli qui détruit tout a tué mes rêves d'autrefois, il y a caché en moi une humble lueur, la seule fortune qu'à garder mon cœur. »
C'est peut-être le tango le plus beau, le plus émouvant de Carlitos Gardel, effectivement, retour, revenir, c'est pas retour, revenir, le fait de revenir, avec au fond, comme vous dites, ce déracinement qui fait qu'après tant d'années en Europe ou aux États-Unis, il n'est plus de nulle part.
Un autre tango très célèbre de Gardel, Silencio, qui date de 1930, et qui évoque un drame français. C'est le drame de Paul Doumer, ancien gouverneur de l'Indochine et futur président de la République en 1930, et de sa femme, Madame Paul Doumer. Ils ont perdu 4 ou 5 enfants. Il y a un livre de Paul Doumer qui s'appelle « Le livre de mes fils », qui est assez déchirant. 4 fils tués à la guerre. Cette chanson est un hommage à la douleur de la mère.
Todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran 5 hermanos, ella era una santa, eran 5 besos que cada mañana rozaba muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De canas muy blancas eran 5 hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano de madres que cantan, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas.
Carmen Bernand, que nous dit Gardel dans cette chanson?
Cette chanson est tout à fait particulière parce qu'on croit toujours que le tango décrit la ville de Buenos Aires, et c'est vrai, il décrit les quartiers, les gens, les situations, les transformations urbaines et politiques. Mais là, dans Silence, c'est un tango qui parle d'un événement français. Donc il sort de l'argentinité, si l'on peut dire, dans les paroles, et prend le drame de Madame Paul Doumer, parce que c'est la femme qui l'intéresse, qui a perdu, lui dit, 5 enfants à la guerre de 14, se penche sur la douleur de cette femme. Ce qui est intéressant dans ce tango, c'est que d'abord, il y a quelque chose de l'ordre de l'évocation industrielle de l'époque. Par exemple, il commence en disant, c'est tard, la nuit, il dit, le muscle d'or, pour les ouvriers, et l'ambition se repose. Ce sont les paroles qui introduisent ce drame, ces gens qui ont donné leurs enfants à la patrie, et finalement on va se terminer en disant, cette femme reste toute seule, il emploie le mot viejecita, qui est la petite vieille, qui est celui qu'on emploie dans le tango. Le personnage de la petite mère, la petite vieille mère, est très important dans toute la thématique.
Alors, d'ailleurs, le drame n'est pas complet, puisque Paul Doumer, président de la République, sera assassiné 2 ans après cette chanson, en 1932.
Voilà, donc c'est vraiment un drame épouvantable. Alors, la chanson se termine en disant, tout dort, la ville dort, silence dans la nuit, et silence dans les armes. Donc c'est toute une proclamation, un manifeste antimilitariste. Peut-être qu'il a chanté cette chanson parce qu'il était sensibilisé en tant que Français au drame de la guerre de 14. Il ne faut pas oublier que lui n'est pas allé à la guerre. Il a prétendu qu'il était né en Uruguay, qu'il n'était pas français. Et donc j'ai un peu l'impression que quelque chose est resté de ce choix qu'il a fait, qui à l'époque était un choix assez difficile parce qu'on n'était pas très bien vu, et surtout qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient d'origine française qui sont repartis en Europe à la guerre de 14. Et c'est un peu, moi je le sens comme ça, comme une sorte de justification et surtout un manifeste antimilitariste qui fait toujours du bien.
Mais qui est dans une Argentine qui, peu de temps après, est secouée précisément par un des innombrables coup d'état militaire qui voit la chute du président Irigoyen,
oui,
renversé par un militaire.
Exactement. Gardel n'était pas un partisan d'Irigoyen. Ça peut paraître étrange parce que Irigoyen était un personnage populaire. Mais il n'était pas non plus partisan des militaires. C'est le premier coup d'état militaire. C'est la première dictature. C'est le début de torture. Ça ne va pas aller aussi loin que dans l'époque moderne.
Enfin, au 19e siècle, le cas de la dictature de Rosas, c'était la première moitié du 19e, n'était pas non plus tendre.
Non. Donc il y a toute une tradition de dictateur qui est tout de même très importante.
Donc le tango peut être une forme de protestation?
Le tango n'est pas vraiment, à mon avis, une protestation. Le tango, c'est l'expression de la vie quotidienne. Et je crois que c'est important dans l'histoire parce qu'on a la contestation, on a les événements, on a les faits politiques. Mais il y a quelque chose à quel je suis sensible en tant qu'anthropologue, c'est le quotidien. Comment les gens sentent le manque d'argent, la tristesse, la solitude de la ville, le travail ou le non-travail, etc. Et le tango est une chronique de ces vies-là. Et à ce titre, moi, je le mettrais aussi dans la politique, dans le sens large. Comment vivent les gens, après tout, on pourrait écrire une histoire, je crois, en partant du bas, en partant de ces choses apparemment si simples, et voir comment les gens ont ressenti ces événements. Alors évidemment, les années 30 sont des années difficiles. Elles vont se terminer d'une façon plus glorieuse, parce que il va y avoir une grande immigration d'Espagnols qui vont redonner, à cause de la guerre d'Espagne, qui vont redonner à la vie culturelle un second souffle. Il va y avoir quelques constructions qui font que Buenos Aires est Buenos Aires, avec l'obélisque, l'avenue 9 juillet. Il va y avoir aussi l'idée que la deuxième guerre peut favoriser, mais là, on va entrer dans une toute autre phase.
Alors, comment est-ce que le tango rencontre le populisme de Perón?
Parce que, justement, Perón va être élu. Il est élu légalement président de la République. Et c'est très amusant de penser que l'hymne péroniste, donc un gouvernement populiste, tout ce qu'il y a de plus populiste, va être composé et va être chanté par Hugo del Carril, qui à l'époque, donc dans les années 40, c'est vraiment le second Gardel. C'est un homme très beau qui ressemble un tout petit peu, qui joue avec cette ressemblance, qui va faire du cinéma. Il est acteur, il chante très bien, il a une voix extraordinaire. Et donc, cette marche des jeunes péronistes, muchachos peronistas, va finalement être liée au tango d'une certaine façon, puisque c'est ce personnage très très connu qui va en faire un hymne très populaire jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours chantée.
Cette sensibilité perdure donc jusqu'à l'Argentine de Cristina Kirchner?
Cette sensibilité change un tout petit peu, parce que c'est vrai que le populisme aussi va entraîner un autre pan, disons, d'identification avec ce qui est ce qu'on pourrait appeler, c'est difficile à traduire, criollisme, c'est-à-dire une sorte de retour aux racines nationales. Le tango va un tout petit peu décliner pendant les années 50, encore qu'il y a des figures toujours très importantes qui vont continuer, mais il va y avoir d'autres choses qui vont venir peut-être transformer cette espèce de monopole que le tango avait sur la musique populaire. Là, il faut dire que
Astor Piazzolla apporte le jazz, là.
C'est ça, le jazz va se développer, des grands artistes vont aller à Buenos Aires, notamment Louis Armstrong dans les années 60, et donc le jazz va et le rock vont changer un tout petit peu, disons, la donne. Et peut-être que le tango aurait été amené à s'étioler, parce que c'est très difficile de revenir sur un passé, sur une thématique qui est déjà très datée. Mais
il n'y a pas eu ces noces entre le tango et le jazz.
Oui, et Piazzolla va faire quelque chose de très important. Il va moderniser le tango, il va le transformer tout en gardant les rythmes anciens, c'est ça qui est fabuleux. Donc il n'a pas changé la rythmique, la structure rythmique des tangos, mais il va apporter beaucoup de transformations avec des éléments de jazz, des éléments qui viennent de la musique classique.
Sans renoncer à cette tonalité chagrine.
Ah oui, parce que c'est le bandoneon. Et donc, il y a des tangos de Piazzolla qui reprennent des thèmes de Bach, mais qui se transforment en tango. Et Piazzolla est un homme qui a vécu aux États-Unis, parce qu'il est parti, il a quitté l'Argentine à l'âge de 4 ans. Il a vécu à New York. Et à la vérité, il était plutôt un Américain. Il le raconte lui-même, il savait très mal parler parler l'espagnol. Ses parents vont retourner en Argentine et c'est là qu'il va appliquer ce qu'il a appris dans un ghetto de New York. Ils étaient très pauvres et qui va petit à petit composer une musique nouvelle, mais qui est toujours du tango.
Piazzolla, Piazzolla, bien, en voici une bouffée. Alors, au-delà de Piazzolla, aujourd'hui, quelles sont les nouvelles formes de la modernité du tango?
Alors, aujourd'hui, le tango s'est adapté. Maintenant, il y a du tango électronique qui est très, très bon. Et il y a le fameux projet Gotan qu'on voit toujours à Paris, qui a toujours un succès fou.
Qu'est-ce que c'est, le projet Gotan?
Eh bien, c'est du tango dansé, mais avec de la musique électronique. Et donc, on peut dire qu'on est dans l'actualité. Je crois qu'il y a aussi autre chose, c'est que le tango, et ça c'est peut-être un peu dommage, c'est un peu figé à Buenos Aires dans la mesure où il y a maintenant des touristes, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et donc, on trouve beaucoup de centres qui exhibent du tango, où on retrouve des gens habillés en marlou. Enfin bon, ce côté un peu commémoratif que je n'aime pas énormément.
On tombe dans le folklore et finalement,
le
tango d'aujourd'hui aurait moins à nous dire sur la réalité profonde du pays, de
l'Argentine. Et le tango aujourd'hui n'a plus à nous dire sur la réalité. Je reviens, c'est de maintenant, la réalité sont les bidonvilles, sont les migrations qui viennent de Bolivie, du Paraguay, du Chili d'ailleurs. Les problèmes sont extrêmement différents, mais il reste une sorte de culte rendu au fond à quoi? À l'Argentine quand elle était riche, puisque maintenant elle ne l'est plus, et le tango est lié à cette période d'or quand Buenos Aires était peut-être un petit Paris.
Merci beaucoup Carmen Bernard, merci beaucoup. Votre livre que j'ai plusieurs fois cité sur la capitale de l'Argentine s'appelle Histoire de Buenos Aires et paru chez Fayard en 1997. Vous avez publié un article dans l'Histoire, numéro 322, en juillet 2007, Le tango, toute la tristesse de Buenos Aires. Je voudrais signaler aussi deux autres ouvrages sur le même thème. Michel Plisson, Tango du noir au blanc, Acte Sud 2001. Je crois que c'est un livre que vous aimez bien.
J'aime beaucoup, oui. Il explique très bien le rythme et en plus il y a un CD. Alors je crois que ça vaut la peine.
Très bien. Et Horacio Salas, lui est argentin.
Oui.
Le tango, publié également chez Acte Sud en 1989. Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que les références des documents sonores qui ont été utilisés sur notre site. Vous pourrez également réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, je recevrai Charles Ridel pour parler des embusqués. Jadis, naguère, et aujourd'hui, ce sera dans le cadre de la semaine spéciale que France Culture consacrera à la guerre.
Santa María de los Buenos Aires.
Hay milonga de amor, hay temblor de Gotán. Este tango es para vos,
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau et avec Meryl Moneghetti, Patrick Molinier, Gaëtan Nemo, Virginie Gresset, Christian Charles et Florence D'Artois pour les Archivinats.